Thank you. La Bacchanale, tirée de Tannhäuser de Richard Wagner, Marie Stiansons dirigeait l'orchestre de la radio bavaroise. Comme Wagner, Igor Stravinsky aura lui aussi affaire à l'incompréhension du public parisien. La création de son fameux Sacre du Printemps est restée comme l'un des scandales les plus mémorables de l'histoire de la musique. En cette belle soirée de printemps 1913, tout le Gotha parisien s'est rassemblé au théâtre des Champs-Élysées pour découvrir ce qui sera plus tard salué comme l'une des compositions les plus importantes du XXe siècle. Engagé par Diaghilev pour la saison 1913 des ballets russes, Stravinsky imagine un ballet dans lequel il propose des images de la Russie païenne. Il y met en scène des rituels primitifs de célébration du printemps qui se terminent par une danse sacrificielle au cours de laquelle une jeune fille danse jusqu'à la mort. Le sacre se déroule en deux parties, intitulées respectivement « L'adoration de la terre » et « Le sacrifice ». Il n'y a pas véritablement d'histoire ou d'intrigue. Chacun des deux tableaux présente une succession de jeux rituels et de scènes incantatoires qui aboutissent dans la première partie à la danse de la terre, une page violente et orgiaque, et dans la deuxième partie à la prodigieuse danse sacrale d'une virtuosité rythmique redoutable. Stravinsky rompt ici avec le passé et abandonne tout lyrisme au profit d'un certain archaïsme qui provient du passé païen de la Russie. Paradoxalement, cela lui permet d'explorer un monde musical nouveau, sauvage et cruel, mais savamment construit. Le rythme est le véritable héros du spectacle. Sur le plan chorégraphique, Nijinsky surprend lui aussi le public par des mouvements saccadés, désordonnés, désarticulés, qui rompent avec les codes de la danse classique, et plus encore que la musique, ce sont eux qui suscitent auprès du public un véritable scandale. Sacrifice humain, vieillard souffreteux, pantin désarticulé, la bonne société parisienne est choquée par tant de bestialité. Le soir de la première, le 29 mai 1913, au théâtre des Champs-Élysées, la foule se met presque immédiatement à rire, à huer, à chahuter. L'émoi général tourne à la colère, puis à la violence, de sorte que les gendarmes sont contraints d'intervenir. Le ballet se poursuit quand même jusqu'à la fin. La puissance explosive sans précédent de la musique, les sonorités volcaniques produites par un gigantesque orchestre, des pulsions rythmiques brutales et des dissonances déchirantes amènent certains des premiers critiques à concevoir des commentaires tels que celui de Karl von Vechten, « War over art »,« Guerre à l'art », ou à ce surnom trouvé par Léon Vallas, « Le massacre du printemps ». Pour sa part, de façon plus rationnelle que passionnée, Nicolas Slonimsky écrit « Depuis le solo initial du basson jusqu'à la frénésie finale de la danse sacrale, le sacre du printemps avance inéluctablement en créant des valeurs musicales si nouvelles que le monde a dû soit rejeter cette musique comme bizarre manifestation d'un jeune déséquilibré, soit l'accepter sous l'angle d'une révolutionnaire innovation. » Je vous propose ici de revivre le moment le plus fort de cette œuvre en écoutant le final de la deuxième partie, le sacrifice. Vladimir Yurovsky et l'Orchestre Philharmonique de Londres célébraient le Sacre du Printemps dans cette partition hautement virtuose d'Igor Stravinsky qui, lors de sa création au Théâtre des Champs-Élysées de Paris le 29 mai 1913, a suscité le plus gros scandale de l'histoire de la musique. Scandale qui a largement éclipsé celui qui avait accompagné la création du prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy exactement un an auparavant. Merci d'écouter Espace 2. Je pourrais encore parler de la création de Jeu de Claude Debussy, de 4 minutes 33 de John Cage, des 4 pièces pour orgue et marimba de Steve Reich ou encore du ballet mécanique de L'Enfant terrible de la musique qui tous ont provoqué des émeutes lors de leur création. Mais nous nous contenterons de refermer cette émission avec Désert, une pièce pour orchestre et bande magnétique d'Edgar Varèse, composée en 1954. La création a eu lieu également au Théâtre des Champs-Élysées le 2 décembre cette année-là. Pierre Henry était à la console de projection du son et l'Orchestre National de France dirigé par Hermann Scherchen. Scherchen, prudent, sachant bien que l'œuvre était risquée à jouer devant un public qui ne goûtait que très peu à la musique contemporaine, avait décidé d'encadrer la création par deux œuvres classiques, la grande ouverture de Mozart et la symphonie pathétique de Tchaïkovski. Il pensait aussi atténuer la réaction du public devant une œuvre si révolutionnaire et se disputa d'ailleurs avec Varèse sur ce sujet qu'aurait préféré Anton Webern plutôt que Mozart. Il eût été suicidaire d'exécuter une telle œuvre d'un compositeur largement inconnu en France sans la présenter au préalable pour qu'elle soit mieux comprise. Une partie du public pensait d'ailleurs avoir affaire à un compositeur italien du XVIIIe siècle. Et c'est Pierre Boulez, alors âgé de 29 ans, qui se charge de rédiger l'introduction approuvée par le compositeur. Le soir du 2 décembre, devant 1500 personnes, dont quelques personnalités comme André Malraux, Scherchen salue le public et entame Désert de Varèse. Et ce sera là l'un des scandales les plus impressionnants de toute l'histoire de la musique contemporaine. Dès les premières notes, le public est déconcerté. Les auditeurs se mettent à siffler et des huées pointent de toutes parts. Mais lorsqu'arrive la première interpolation de sons organisés, la salle se déchaîne. Pierre Henry, au potentiomètre, a beau augmenter le volume au maximum, le vacarme du public redouble. Il rugit, hurle, pousse des cris d'animaux, demande le renvoi de Scherchen et surtout d'Henry. Éreinte le compositeur et c'est à peine si l'on entend le moindre son, orchestral ou enregistré. Des protestations et des applaudissements répondent aux injures, par vagues, et une bagarre générale éclate. Le chef, imperturbable, dirige l'œuvre jusqu'au bout. Puis la musique s'effondre, malgré ses efforts, sous les cris des protestations d'un public survolté et sous les railleries des plus virulents d'entre eux. Quelques notes de Désert d'Edgar Varèse, une œuvre qui a suscité un véritable scandale lors de sa création en 1954 à Paris. Ce monsieur Varèse, peut-on lire dans la presse au lendemain du concert, devrait être fusillé séance tenante. C'est le Domitici de la musique. Et puis non, ça ferait encore du bruit, il serait trop content. C'est la chaise électrique qui convient à cet électro-symphoniste. Un autre critique devait déclarer « Edgar Varèse, l'homme qui intègre à sa musique les bruits de notre temps, a intégré à son œuvre Désert les bruits de l'émeute que soulève son audition. Car tel est, aux États-Unis comme en France, le propre de l'œuvre du compositeur. Elle soulève les passions. » Ainsi prend fin cette oreille d'abord, proposition de Catherine Buzer, mise en onde aujourd'hui par Christian Morero. Vous écoutez Espèce 2, il est 17h30.
Espace 2 aime vous faire voyager dans le temps et dans l'espace. Par exemple, mardi 29 octobre, tiens, nous serons pour vous, avec vous, à Mendrisio et avec la radio suisse italienne aussi, pour suivre et partager une soirée du festival Cantar di Pietre. Le chant des pierres, oui, c'est le nom de ce festival de musique médiévale. On y cueille la fleur des interprètes de ces répertoires millénaires. Le 29 octobre, dans Pavillon Suisse, nous écouterons et interviewerons en langue française et italienne deux ensembles, Aquilegia et Murmur Mori. Et on vous promet des sons rares d'instruments, pourtant extraordinaires. La guimbarde, tiens, avez-vous idée de ce qu'on peut tirer d'une guimbarde ? Rendez-vous est pris, le Moyen-Âge s'ouvrira à 19h30, mardi 29 octobre, dans la boîte magique de votre radio.
Bazar, Jonas Paul.
On va passer deux moments clés au bord de l'eau dans Bazar aujourd'hui. D'abord parce que l'opéra qui nous intéresse cette semaine à 18h, Rusalka de Dvorak, raconte l'histoire d'une créature aquatique, au sang froid donc, amoureuse d'un homme. Au sang chaud donc, amour impossible ou presque. Et puis au moment de l'archive du jour, dans environ une heure, nous serons également au bord de l'eau puisque le reporter Claude Mossé, c'était il y a 65 ans jour pour jour, le 28 octobre 1961, tendait son micro aux Dockers de Marseille. Des hommes du port, fiers, bien qu'exploités, et donc révoltés. Mais tout de suite, c'est dans une ville bien loin de la mer que je vous invite, à Madrid, sur la Grande Via, une avenue dont la construction en 1910 a nécessité la démolition de près de 300 maisons quand même, 15 rues disparues, 9000 mètres de trottoirs surélevés, 29 000 mètres de pavés. Et il y a aussi cette comédie musicale espagnole qui porte ce nom, la Grande Via, justement une revue en somme, où les préoccupations sociales et politiques du moment sont exposées avec bonne humeur et sens satirique, avec par exemple comme personnage les rats, le chevalier et le marcheur, le quartier de la prospérité ou le quartier du Pacifique.
Thank you.
Zarzuela, un genre lyrique théâtral espagnol bien avant l'opérette française. Ici, la Grande Via, dont on écoutait le tango chanté par Teresa Berganza. C'est une page composée par Federico Chueca. Vous entendiez Asensio Garcia, c'est son nom de famille. Enriquette, son prénom, dirigeait l'English Chamber Orchestra de Londres. On va rester dans le même pays avec Alicia de la Racha au piano.
Thank you.
Une des danses espagnoles d'Enrique Granados par Alicia de la Rocha et nous voilà au rayon pantoufle au 3e siècle avec l'histoire de Rhodope. C'est une jeune grecque embarquée en Égypte comme esclave et un jour, un aigle lui vole une de ses chaussures alors qu'elle est au bain. L'oiseau s'envole, va laisser tomber la chaussure au pied d'un pharaon qui, frappé de stupeur par la délicatesse de cette pantoufle, promet d'épouser la femme à qui elle appartient. C'est une des toute vieille version du célèbre conte universel, ici mis en musique par Prokofiev, Cendrillon.
Thank you.
La sérénade tirée de la suite Nuit d'été de Prokofiev. Je vous annonçais Cendrillon, l'arrivée de Cendrillon au bal. J'ai un petit doute là dans ce qu'on vient de diffuser. Mikhaïl Pletnev dirigeait l'Orchestre National Russe en 1944. Bon, je passe à la suite alors. Est-ce que la littérature influence votre façon de penser la musique ? Vous allez pouvoir réfléchir à la réponse que vous donneriez, vous, à cette question pendant qu'on écoute la vocalise de Rachmaninov, jouée dans une version piano solo par le musicien géorgien Sandro Nebieridze. C'est à lui que la question était destinée dans cette interview qu'il donne à l'occasion de la sortie de ce disque en 2019. Et il répond « La littérature ne change pas seulement ma façon de penser la musique ou de la jouer, elle contrôle aussi entièrement mon sens de l'interprétation et de l'analyse. » Je suis passionné de livres de science-fiction et de fantasy, ainsi que par les romans d'écrivains comme Dostoïevski, Hesse ou Bdike. Mais j'aime aussi certains écrivains de mon pays comme Bougadjé, Bourchouladjé, Tvaradjé, Karchkadjé. À l'âge de 12 ans, j'ai même composé sur un roman de Karchkadjé un opéra de chambre qui a reçu le second prix d'un concours à l'Opéra National de Géorgie. Ma relation avec la littérature m'est aussi d'une grande aide dans mes compositions. en raison des idées et de l'inspiration qu'elle m'offre. La musique, par nature, est l'art d'exprimer nos sentiments avec des sons particuliers, si bien que chaque nouveau livre, chaque nouveau roman ou poème que je lis se transforme immédiatement en un vaste éventail d'idées que je décide parfois de communiquer par ma musique. Non seulement j'aime lire, mais j'ai également écrit quelques courts romans surréalistes et je continue dans cette voie chaque fois que j'en ai le temps et l'envie.